Je voudrais continuer ce matin sur le thème commencé la semaine dernière sur l'espérance. Mais je ne voudrais pas me répéter par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait partagé la semaine dernière, que nous pouvons retrouver l'espérance et nous avons besoin d'espoir et le seul qui peut nous donner quelque chose de valable qui dure, c'est le Seigneur Jésus, l'espoir des nations et au travers de sa consolation, au travers de sa délivrance. Si nous vivons ces choses dans notre vie, alors il y a l'espérance, l'étincelle de l'espoir qui rejaillit en nous. Mais il y a quelque chose dont le Seigneur Jésus, s'il n'a pas parlé d'espoir, il a parlé d'autre chose qui vient développer dans notre cœur l'espérance. C'est l'espérance de son retour. Mais d'abord, regardons ce qu'il est dit de manière générale sur cette espérance que Dieu nous donne. Romains 5:5, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. L'espérance que nous avons, elle est durable, elle est éternelle et elle est solide. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle se repose sur quoi que ce soit d'ici-bas, mais elle est fondée sur l'amour de Dieu. Est-ce que vous considérez l'amour de Dieu comme quelque chose d'immense ? Quand on lit la Bible, en tout cas, c'est ce qu'on voit, quelque chose qui dépasse notre entendement tellement l'amour de Dieu est grand. Qui aurait imaginé donner sa vie pour des pécheurs, pour des gens qui le méritent pas ? Qui aurait fait ça de lui-même sur cette terre ? Aucun d'entre nous, mais Dieu, il a choisi de le faire pour nous. Ça, c'est son amour, sa façon d'aimer. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur a choisi de nous montrer son amour afin que nous puissions avoir cette espérance véritable et réelle. Et dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de nous accrocher à cela. Si ce matin encore vous manquez d'espérance, regardez à la croix, regardez à l'amour du Seigneur, regardez à celui qui a donné tout ce qu'il avait de plus précieux pour vous et retrouvez l'espérance divine. Mais on veut aller dans cet enseignement du Seigneur. S'il n'a pas parlé d'espoir, par contre, il a parlé de quelque chose qui nous donne l'espoir. C'est son retour. Ça vous donne l'espoir, son retour ? Le fait que le Seigneur revienne ? Ou est-ce que c'est juste une doctrine ? Oui, dans les assemblées de Dieu, voilà ce qu'il faut croire. Mais vous ne le croyez pas vraiment. Non ! Je crois que le Seigneur va revenir. Et plus les temps sont en train de s'épaissir, plus je me réjouis, non pas parce que ça s'épaissit, la nuit, mais parce que je sais que l'aurore est proche. Je sais que le Seigneur revient bientôt et va venir chercher ses enfants. Et le Seigneur Jésus a voulu que nous puissions avoir cette espérance qui se réchauffe à la lecture de ses enseignements. Luc 12, regardez ça, Luc 12, au verset 35, un enseignement du Seigneur par rapport à cette attente que nous devons avoir pour notre Maître. Regardez ce qu'il est dit justement, au verset 35 de Luc 12, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur Maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserez pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Vous connaissez ces paraboles. Là, il y a deux paraboles qui nous sont données pour nous montrer ces attitudes que nous devons avoir par rapport au retour du Seigneur. Mais s'il y a une réalité qui est encore plus vraie ce matin, que je voudrais appuyer particulièrement, c'est que quand nous sommes désespérés, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes apeurés même par les choses qui se passent ici-bas, et c'est des choses qui sont normales, le fait qu'on soit dans la peur, qu'on soit dans la crainte, quand on voit ce qui se passe, c'est le meilleur moment pour lever les yeux vers le ciel, et dire « Seigneur, tu reviens bientôt ». J'ai besoin, Seigneur, de m'accrocher à cette espérance. Et puis, quand on voit comment le Seigneur Jésus s'y prend pour récompenser ses enfants, c'est ça qui augmente l'espérance dans notre cœur. Vous avez vu ? À deux reprises, le Seigneur dit « Heureux ». Et le mot heureux a une puissance en hébreu beaucoup plus forte que en français. Ça veut dire béni. Il y a une bénédiction. Et il y aura une bénédiction. Mais c'est pas pour n'importe qui. Heureux, ces serviteurs que le maître trouvera veillants. Que nous soyons trouvés veillants. Mais la grâce de Dieu se manifeste dans cette réalité que l'espérance, c'est cette attente par rapport à la joie que l'on va connaître. Parce qu'on sait qu'on va se réjouir dans ce moment-là où le Seigneur va nous trouver. Alors, jusqu'à présent, on se réjouit. Un proverbe nous dit d'ailleurs que l'attente du juste n'est que joie. Mais l'espérance du méchant se détruit. L'attente du juste. C'est une joie qui est là. Non pas parce qu'il y a les événements qui se passent autour de nous, parce que là, il n'y a pas de joie du tout, mais la joie que savoir qu'à un moment donné, le Seigneur va revenir et va nous récompenser, et va nous accorder sa grâce, sa bénédiction. Mais il y a aussi cette réalité qui est là, c'est que nous serons servis à la manière dont nous aurons servi. Vous avez vu que le Seigneur, le maître de la maison, il va revenir. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va trouver des gens qui ont ceint leurs reins, qui ont leur lampe allumée? C'est lui-même qui va se ceindre pour les servir et les mettre à table. Ça vous intéresse d'aller au restaurant du ciel? Moi, ça m'intéresse. Quand je vois sur cette terre déjà les bonnes choses qu'on peut manger, je m'imagine pas. Et je crois que Dieu est tout puissant et qu'il va nous préparer un festin merveilleux au ciel. Et ça sera quelque chose d'incroyable. C'est pas les anges qui vont nous servir. C'est Jésus lui-même qui va nous servir. Quelle grâce ! Est-ce que nous méritons cela ? Bien sûr que non, mais le maître de la maison, parce qu'il va trouver des serviteurs fidèles, il va lui-même servir. Et combien nous avons intérêt à manifester notre amour au Seigneur ici-bas sur cette terre, parce que à la mesure dont nous aurons servi, le Seigneur va servir. Mais il est dit aussi, en sous-entendu, on pourrait prendre le verset et le mettre à l'envers, malheureux, ceux que le Seigneur va trouver qui ne veillent pas. Vous êtes d'accord? Je crois que je ne vais pas trop loin en disant ça. Mais c'est ce que l'enseignement du Seigneur nous apporte ce matin. En tout cas, il y a une bénédiction d'attendre. Il y a une joie dans notre cœur. Vous savez, quand on se réjouit, peut-être vous vous réjouissez parce que vous avez les vacances qui sont programmées. Vous savez que vous allez faire toutes sortes d'activités. Et en attendant ce moment-là, parce que ce n'est pas tout de suite, vous vous réjouissez dans votre cœur et vous languissez. Et c'est la même chose qui se passe, parce que on sait que quand on sera avec le Seigneur, ça sera tellement merveilleux. Il y a une joie, il y a une grâce, et on est là, on est bien, malgré les difficultés de ce monde, on est là, on arrive à tenir, parce qu'on sait qu'il y aura ce moment merveilleux. Mais le Seigneur nous met des conditions, il y a une attitude qui implique que nous devons veiller, être prêts à tout moment. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux paroles. Que vos reins soient saints, que vos lampes soient allumées. Vous savez, à l'époque de Jésus, en Palestine, ils avaient des grandes robes, ils n'avaient pas des costards cravates, ils avaient des grandes tuniques, et quand ils devaient travailler, ils prenaient une ceinture et ils rassemblaient tout ça et les serraient autour d'eux pour pas qu'ils soient gênés dans leur marche, gênés dans leur travail. Ils devaient ceindre leurs reins. C'est ça, cette expression qui est là. Et le Seigneur nous invite à faire la même chose. Quand ils saignaient leurs reins, c'est parce qu'ils allaient se mettre à faire quelque chose. Ils se préparaient à se mettre à l'œuvre. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus, enfin, c'est ce que Dieu plutôt a commandé à Moïse de faire par rapport au peuple d'Israël. Vous vous souvenez, au moment de la Pâque, la première Pâque, c'était quand? À la sortie d'Égypte. Cette dernière plaie qui allait se manifester, la mort de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, seuls ceux qui avaient mis du sang sur le linteau de la porte étaient épargnés. C'est-à-dire que même le peuple de Dieu pouvait être touché par cette plaie s'il n'obéissait pas. C'est important de le rappeler, que si nous ne sommes pas couverts par le sang du Seigneur, nous pouvons être encore frappés du jugement du Seigneur. Mais si nous avons accepté la grâce, alors nous sommes épargnés. Et quand il préparait tout cet agneau qui était là, il devait le manger, pareil, les reins saints, la ceinture autour des reins, le bâton à la main et les souliers aux pieds, prêts à partir, avec cette foi que le Seigneur allait manifester sa gloire. Et c'est de cette même manière, ça image la Sainte-Cène qu'on a pris tout à l'heure, mais c'est nous devons avoir cette attitude de cœur, d'être toujours prêts, croire que le Seigneur revient bientôt, et le bientôt dont il est question, c'est pas qu'il revient tout de suite, mais c'est qu'il revient rapidement, ça sera en un clin d'œil, ça sera très rapide. Malheur à celui qui ne sera pas prêt, nous dit la parole. Le grand piège, c'est de pouvoir dire, Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Alors, on l'entend souvent de la part des pécheurs, mais on l'entend malheureusement de plus en plus de la part des chrétiens. Il y a des choses qui sont là, qui sont pas bonnes dans mon cœur. Je le sais, je connais la parole. J'ai entendu des prédications. Mais on verra plus tard. De toute façon, quand le Seigneur va revenir, j'aurai le temps de me préparer. Demandez-le aux vierges folles si elles ont eu le temps. Quand elles sont allées chercher, c'était trop tard. Non, c'est maintenant, aujourd'hui, dans l'instant présent que nous devons être prêts. S'il y a quelque chose qui gêne, si dans notre vêtement spirituel, il y a des choses qui sont là, qui sont entachées, nous avons besoin de venir vers le Seigneur et que sa ceinture de vérité puisse régler tout cela. Laissons la parole de Dieu nous dégager de tout ce qui nous embarrasse et approchons-nous de lui. Le fait de ceindre ses reins, le fait de laisser cette parole de vérité éclairer notre cœur, Ça a un effet direct sur l'espérance que nous pouvons avoir dans notre cœur. Il y a un verset qui le dit de manière claire. Je le lis pour vous. 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi saignez les reins. C'est la même expression. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Quand je ceins mes reins, quand je choisis de marcher dans la vérité jour après jour, instant après instant, quand je choisis, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de le régler, alors il y a l'espérance qui est là dans mon cœur, qui est encore plus forte qu'auparavant. Et que le Seigneur puisse nous trouver ainsi les reins saints et les lampes allumées. Littéralement, c'est les lampes brûlantes. Mais oui, parce que c'était pas des lampes torches à LED comme on a aujourd'hui, mais c'était, vous savez, des flambeaux. Donc il y avait du feu qui était là, lampe qui était brûlante et qui permettait d'apporter cette lumière. Nous devons marquer par nos vies. La lampe, c'est l'image du témoignage et nous devons marquer par nos vies la différence. J'ai trouvé cette anecdote, un homme qui se disait chrétien, je crois au Canada, en tout cas dans le nord de l'Amérique. Et un homme qui se disait chrétien et qui avait obtenu un emploi dans un camp de bûcherons. Et ce camp de bûcherons, il avait une mauvaise réputation parce que les gars qui étaient là-bas, c'était des gaillards, c'était des gens rudes, s'ils avaient un langage grossier, ils avaient une impiété pas possible. Et il a trouvé un emploi là, le monsieur. Et il avait un ami qui a appris ça, mais il lui a dit, mais si ces bûcherons découvrent que tu es chrétien, alors tu vas passer un sale quart d'heure. Parce qu'ils vont se moquer de toi, ils vont te faire la vie dure. Et là, il a dit, mais je suis obligé, j'ai besoin de ce travail. Alors le lendemain, il s'en va à ce camp, et puis pendant un an, il travaille là-bas, et il revient au bout d'un an, il a quelques jours de repos, il va dans la ville, il retrouve son ami, et son ami qui est là, il lui pose la question, « Mais alors comment ça va? Est-ce qu'ils t'ont rendu la vie dure à cause de ta foi ?» Et le monsieur, il dit, « Oh non, non, ils ne m'ont même pas ennuyé un seul instant. Ils n'ont même pas découvert que j'étais chrétien. Ils n'ont même pas vu la différence, finalement, ça veut dire. » C'est quelque chose qui nous interpelle. Et ça nous fait rire, c'est normal. Mais des fois, on se dit, mais est-ce que c'est pas passé des choses comme ça dans ma vie? Je me souviens de cette histoire dans une église où il y a un monsieur qui est arrivé un jour, qui a entendu la parole, qui a été touché, et puis il s'est rendu compte que dans la salle, il y avait quelqu'un qui travaillait avec lui, et qui lui avait jamais parlé du Seigneur. Et ça faisait peut-être des années qu'ils travaillaient ensemble. Et jamais il avait su que cet homme était chrétien. Et il l'a retrouvé dans une église. Bon, Dieu s'est servi de notre moyen, heureusement. Mais des fois, ça nous interpelle que notre témoignage marque la différence. Oh, je le disais vendredi, il ne s'agit pas de faire des beaux discours. Parce que ça, notre monde est rempli de gens qui font des beaux discours. C'est pas ça. C'est avoir cette vie droite. Comment briller de la lumière du Seigneur? Comment notre lampe peut éclairer autour de nous? C'est avec ce témoignage, quand nous marquons cette différence, quand nous éclairons les gens sur leurs erreurs. Aujourd'hui, on voit tellement de gens qui font n'importe quoi, mais peut-être parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que dit la Bible. Certains ignorent qu'aller voir des voyants, aller faire toutes sortes de choses ténébreuses, sont contre Dieu. Il y a même des voyants qui sont persuadés qu'ils ont un don qui vient de Dieu. Et quand on leur lit Deutéronome 18, ils sont effarés de voir qu'en fait c'est une abomination, toutes ces choses, d'évoquer les morts. Et qu'on a ce devoir d'être cette lumière dans ce monde. Mais je vous pose une question, d'où vient la lumière du flambeau? Elle vient du feu dont le flambeau est embrasé. S'il n'y avait pas de feu, il n'y aurait pas de lumière. Et si la lampe dans notre vie, la lampe de notre témoignage peut apporter une quelconque lumière autour de nous, c'est parce qu'elle est brûlante, elle est ardente. Le problème, c'est que trop souvent, on essaye de briller avant de brûler. Il faut brûler pour le Seigneur, brûler de son amour. Il faut qu'on soit de ceux qui acceptent que la parole de Dieu touche nos cœurs, comme les disciples d'Emmaüs qui disent « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? » Est-ce que la parole de Dieu fait brûler votre cœur quand vous l'entendez ? Ou est-ce que vous êtes indifférent ? Si vous êtes indifférent, ça veut dire que vos lampes, elles sont éteintes tout simplement. Regardez ce que dit Jésus dans ce passage, au verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Quel feu est venu allumer le Seigneur? Le feu de l'amour des hommes pour leur Dieu. Et ce feu a été possible d'être allumé parce que Jésus a donné sa vie à la croix. C'était le seul moyen. D'ailleurs, il le dit juste après, il est un baptême dont je dois être baptisé. Jésus ne devait pas repasser par les eaux, hein, c'est pas ça. C'était le baptême de souffrance. La croix, c'était ce moment où la souffrance du péché, de la mort était concentrée sur la personne de Jésus pour que nous puissions avoir ce feu d'amour et de grâce dans notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Quand il parle de sa consécration pour Dieu, lui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Quand David parle de son communion avec Dieu, il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Je dis, mon œuvre est pour le roi. Tout ce que je fais ici-bas, oui, le Seigneur me donne la grâce d'avoir quelques bénédictions pour moi, mais mon œuvre tout entière, elle est pour le roi. Toute ma vie, elle est pour le roi. Et c'est ça qui fait bouillonner mon cœur. Jérémie l'a dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Face à toutes ces personnes autour qui, lui, préféraient se taire, préféraient rien dire, et puis à un moment donné, ça bouillonne dans son cœur. Parce qu'il est obligé, parce qu'il a une communion avec Dieu, parce qu'il a, il reçoit la parole de Dieu, ça fait quelque chose dans lui, alors c'est obligé de s'exprimer. Et c'est la même manière, notre lumière va pouvoir briller s'il y a cette flamme au fond de notre cœur. Quel est le meilleur moyen d'allumer la flamme et de laisser la flamme brûler en nous? L'amour de Dieu. Celui qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Parce que quand on regarde l'amour du Seigneur à la croix, alors forcément c'est ça qui se propage à notre être. Seigneur, toi tu as accepté de faire ça pour moi qui suis un pécheur. Alors Seigneur, mon cœur veut brûler pour toi maintenant. Quand je vois de quelle manière ton cœur a brûlé à la croix pour moi, Seigneur, je veux en retour te donner ma vie. Et si nous avons notre lampe qui est allumée de cette manière, si notre cœur brûle pour le Seigneur, alors ça va se communiquer à notre témoignage de manière naturelle. C'est pas des efforts que l'on fait. On ne fait pas des formations pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire dans notre témoignage. Bien sûr, si on peut le faire, tant mieux. Mais c'est pas ça. Les 5 étapes pour pouvoir convertir quelqu'un. Déjà, c'est pas nous qui convertissons. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr qu'on peut faire des formations pour pouvoir mieux savoir quoi dire, ne pas mettre les pieds dans le plat, mais la meilleure formation possible, c'est d'être à l'école de Dieu continuellement. Notre lampe est-elle brûlante? La ceinture de vérité est-elle sainte autour de nous? Vous savez, quand quelque chose nous passionne, on a la facilité à en parler. Même si c'est des choses pas forcément positives. Je prends cet exemple très concret. Quand les Bleus, ils ont perdu la finale. Combien de temps ils ont parlé à la télévision de ça? C'était incroyable. J'en pouvais plus. Toutes les chaînes, il y avait le reportage. Oui, pourquoi ils auraient pu gagner, ils auraient pas pu. Enfin, voilà, tout le monde donnait son point de vue. Et pourtant, ça faisait que parler de quoi? D'une défaite. Et de football. C'est pour ceux qui aiment pas le football. Mais en tout cas, ils parlaient d'une défaite pendant des jours et des jours. Parce qu'il y a une passion qui est là. Parce qu'il y a une flamme pour ça. Et quand il y a une flamme pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie, qui nous accorde la victoire, alors c'est normal que nous soyons passionnés, alors c'est normal que nous soyons touchés, que nous soyons interpellés, que nous ayons envie de communiquer ça autour de nous. Parce que c'est cette la flamme que le Seigneur a allumée dans notre cœur. On a lu cette deuxième parabole. Il est question de ce maître de la maison qui s'attend à ce que le voleur vienne. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait. Alors il faut bien faire attention avec les paraboles, surtout quand elles se suivent, parce que des fois on a des mauvaises interprétations. Le maître de la maison dans cette parabole, la deuxième, c'est nous. C'est pas le Seigneur, c'est nous. Et le Seigneur Jésus est comparé, entre guillemets, au voleur. Il faut bien faire attention parce qu'on sait très bien que Jésus n'est pas un voleur. Mais dans les paraboles, il y a des choses qu'il faut, il faut regarder à ce que le Seigneur Jésus a voulu dire. Là, ce qu'il voulait mettre l'accent, c'était qu'il allait venir par surprise. Il allait venir sans prévenir. Oh, ça c'est une façon de parler parce qu'il nous a tellement prévenus dans sa parole. Si on compte le nombre de versets qui nous parlent du retour du Seigneur et qu'on doit veiller, on est prévenu. Un homme averti en vaut 2 ou 10, si vous voulez. En tout cas, on est prévenu. Mais il nous dit quand même qu'il viendra à l'heure où on s'y attend le moins, à l'heure où on n'y pensera pas. Alors ce qu'il faut faire attention dans cette parabole, c'est de prendre les vérités qui sont bonnes à prendre. Et si, si vous savez qu'il y a un voleur qui doit venir cette nuit chez vous, est-ce que vous allez aller au lit tranquillement, vous mettre en pyjama, vous brosser les dents, je sais pas, lire votre Bible le soir, faire votre prière, et puis vous coucher paisiblement, sachant qu'il y a un voleur qui doit passer dans la nuit, on ne sait pas à quelle heure. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez veiller. Vous allez allumer toutes les lumières pour montrer qu'il y a du monde. Vous allez faire du bruit, mettre la musique. Enfin, je sais pas. Peut-être appeler les policiers pour qu'ils viennent faire une ronde dans le secteur. Mais vous allez veiller. Pourquoi? Parce que le voleur, il a pas de bonnes intentions. Et parce qu'on ne sait pas à quel moment il va venir. Maintenant, prenons la vérité de la part du royaume spirituel, de la part du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, il a des mauvaises intentions? Est-ce que c'est un voleur? On l'a dit que non. Au contraire, il est prêt à donner. Quand on voit de quelle manière il va s'y prendre pour faire grâce à ses enfants, on sait que ce sera merveilleux. On sera bien. Mais la différence entre ces deux images, c'est que le voleur, il vient chercher ce qui ne lui appartient pas. Jésus, il vient chercher ce qui lui appartient. Ce qu'il nous a confié, mais qui lui appartient. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous a confié et qui lui appartient à lui? Ben, simplement, pour commencer, le souffle de vie. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est parce qu'un jour Dieu l'a voulu. Bien sûr que vos parents, ils sont pour quelque chose aussi un petit peu, mais Dieu, dans son omniscience, omniprésence, avait déterminé que vous puissiez venir au monde. Vous lisez le psaume 139, vous voyez ces réalités, que quand tu m'avais tissé dans le sein de ma mère, déjà, tu me connaissais. Dans Jérémie avait parlé des mêmes choses également. Dieu nous connaît parfaitement. Il nous a donné le souffle de vie. Et un jour, il va nous réclamer. Il va nous reprendre cela. Il va nous dire, rends compte de comment tu as dépensé ta vie. Est-ce que c'était que pour toi? Est-ce que c'était pour moi? Quand on a accepté de faire la paix avec le Seigneur, quand on est né de nouveau, on a accédé à sa maison. On est passé du stade de SDF spirituel. Maintenant, on est dans la maison de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Le Seigneur nous accueille même dans sa famille. Mais il nous met en position dans sa maison, et en particulier dans cette parabole, la première, de serviteur. Seigneur, quand il va revenir, il veut nous trouver veillants et je rajouterai, sans trop me tromper, servants. On va lire ce passage, la suite. Vous allez comprendre ce qu'on partage maintenant. Au verset 42, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux, troisième fois, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » On peut dire amen, parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, même si c'est difficile. Le Seigneur nous a confié beaucoup de choses. Et le Seigneur, quand il va venir, il va revenir dans cette position de juste juge. Il est parti dans ce roi de grâce, assis sur le trône de la grâce. Mais quand il va revenir, c'est pour nous prendre avec lui et c'est aussi pour faire le jugement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt à passer devant le trône du jugement du Seigneur? Oh, si j'ai fait la paix avec Dieu et si je réponds à ses conditions d'être veillant, les reins sains, ma lampe allumée, oui, même s'il y a une petite flamme qui est là, je voudrais qu'elle soit plus grande, mais le Seigneur sait comment ça se passe. Mais en tout cas, la lampe, elle est allumée. Alors je sais que je serai pris avec lui. Est-ce que le Seigneur a droit d'être exigeant? Est-ce que le Seigneur a droit de demander beaucoup? Ben, lisez avec moi. C'est pas moi qui le dis, hein, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Si le Seigneur nous a confié beaucoup, et le simple fait d'avoir la vie éternelle, je crois que c'est, il y a rien de plus beau sur cette terre. Je crois que c'est pas beaucoup, c'est énormément. Mais le Seigneur exigera encore davantage. Certains disent dans ces conditions, ben je préfère ne pas connaître la Bible, comme ça le Seigneur va pas me demander beaucoup. Ouais, mais le Seigneur te donnait la possibilité de la lire, et si tu refuses de le faire, alors c'est toi-même qui te condamne. Il faut qu'on soit sérieux. On accepte la bénédiction. Encore une fois, vous avez vu cette bénédiction dans ce passage. Celui qui aura été trouvé fidèle et prudent, le Seigneur l'établira sur tous ces gens. Il y a une réalité que quand le Seigneur va nous trouver veillant et priant, qu'on aura fait les choses fidèlement, mais il va nous récompenser. Certains auront l'autorité de 10 villes, d'autres de 5 villes. Vous connaissez l'histoire des talents. Et c'est exactement cette réalité. Quand nous reviendrons avec le Seigneur sur la terre, il y aura ces récompenses qui seront là. Est-ce qu'on court après les récompenses? Non, on court après notre Seigneur et son amour. Mais on a besoin de laisser la parole du Seigneur nous travailler. Il nous a confié des ordres précis. Veillez et priez. Soyez, ayez les reins saints, que vos lampes soient allumées. Est-ce qu'on peut se permettre? Parce que c'est que le Seigneur Jésus, on sait qu'il est bon, plein de grâce. Ben, tant pis, on fait comme on a envie. Cet homme, c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à raisonner. Et il a commencé à relâcher la vigilance. Il s'est dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Oh oui, le Seigneur, il tarde à venir. Ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'il a dit ces paroles et il n'y a rien qui a changé autour de nous. Et on aurait la tentation de se relâcher. Mais plus le temps passe, plus on se rapproche, qu'on le veuille ou non. Et il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour dire ça. C'est une réalité. Le Seigneur est prêt. Le Seigneur est à la porte. Il en a besoin de s'approcher. Il n'est pas venu chercher des gens qui dorment, des gens qui se laissent la nuit du monde bercer leur vie. Au lieu de laisser Christ les éclairer, il n'est pas venu chercher des gens qui raisonnent, je le répète, il n'est pas venu chercher des gens qui profitent, on prend ce qui nous intéresse de la Bible et on laisse tout ce qui nous embête. Il est venu chercher des serviteurs, des gens qui sont en train de servir actuellement, des gens qui sont en train de faire la volonté du Maître actuellement, pas dans 4 matins en disant « oui, j'attends que le Seigneur me montre ». Non, c'est aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui vous faites ce que le Seigneur vous demande de faire? Ça ne veut pas forcément dire un service dans l'Église. Attention, même si ça y contribue. Mais, est-ce que vous faites ce que le Seigneur vous demande de faire? Ou est-ce que vous dites, bon, j'attends encore un peu, je suis pas prêt? On entend des fois des personnes qui disent, j'attends d'être parfait avant de pouvoir me faire baptiser. Vous avez déjà entendu ça? On l'entend tous. Et à chaque fois, on est obligé de rappeler que si on attend d'être parfait, il y aurait aucun de nous qui serait baptisé. Si on attend d'être parfait pour être sauvé, il n'y aurait aucun de nous dans cette salle ce matin. Parce que ce n'est pas la perfection qui est le gage de notre salut. C'est l'espérance que nous avons mise dans l'œuvre de la croix, en Jésus-Christ, l'espoir des nations. Je veux terminer. Pourquoi est-ce que le Seigneur est si exigeant? C'est quand même exigeant qu'il nous dit, il vient par surprise et il choisit de revenir sans nous dire de quelle manière il va revenir. Pourquoi est-ce qu'il fait des choses comme ça? Parce que il choisit aussi d'éprouver notre amour. Est-ce que vous agissez de la même manière avec la personne que vous aimez quand elle est là que quand elle est pas là? Vous savez, des fois on se fait piéger quand la personne qu'on aime n'est pas là. On agit d'une autre manière. On montre une autre face de notre vie. Et le Seigneur, il est venu justement éprouver notre amour. Et le fait de savoir que je serai absent, mais je vous demande de veiller, c'est pour éprouver notre amour. Est-ce que notre amour est brûlant pour lui? Est-ce que notre amour est vrai? Quand on voit des fois des couples qui se séparent, c'est parce que certains, il y en a un au moins des deux qui jouait la comédie dans le couple. Vous l'avez vu ça, je vous apprends rien de particulier. Bien sûr qu'il y a toujours une portion de culpabilité des deux, mais quand il y en a un qui joue la comédie, qui devant l'autre il est tout amour et puis derrière il fait n'importe quoi, Est-ce que ça, c'est l'amour? L'amour de Dieu, il est infini. Il est grand, il est puissant. Il nous emporte. Il nous donne l'espérance. Je termine avec ce verset, Hébreux 6, verset 10. Et je vous pose cette question. Comment Christ va-t-il nous rendre ce que nous lui avons pas donné? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, notre service, nos lampes allumées, malgré le vent qui souffle, on essaye de garder la lampe allumée. Il n'est pas injuste pour voir notre ceinture de vérité, j'allais dire de sécurité, mais c'est pareil, ceinture de vérité autour de nous liée. Il va nous le rendre. Le tout, c'est qu'il nous trouve ainsi quand il va revenir.